Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré. La 70e édition du Festival de Cannes avec RFI.
Ils sont 19 cette année, 19 à concourir pour la Palme d'Or. Parmi eux, des vétérans comme Michael Haneke, déjà deux fois palmé, Todd Haynes, Naomi Kawase, des primo-accédants comme les frères Safdie ou le Suédois Ruben Östlund. Remise des trophées demain soir. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Tous les cinémas du monde, une émission spéciale ce samedi sur le pavillon des cinémas du monde au-dessus de la plage du Majestic avec la fanfare de Cannes en arrière-plan. Par moment, vous l'entendrez. Émission spéciale donc pour vous raconter cette folle quinzaine de cinémas, ce 70e Festival de Cannes avec nos trois invités. Tahar Chikaoui, vous êtes tunisien, vous êtes critique, professeur de cinéma et vous présidez Archipel Images. Bonjour.
Bonjour.
Peter de Bruges, vous êtes américain, rédacteur en chef de Variety, donc le plus connu de tous les magazines professionnels. Bonjour.
Bonjour, merci.
Ariel Schweitzer, vous venez d'Israël, vous habitez à Paris et vous écrivez au Cahier du Cinéma. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler dans cette émission spéciale Cannes des films, des séries aussi, Twin Peaks, Top of the Lake, de vos coups de cœur, de vos coups de griffe. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur, brièvement, mais qu'on en parle quand même de l'ambiance très particulière du festival. Cette année, un tapis rouge sous haute surveillance, des fouilles, des chiens renifleurs, tous ces Men in Black qu'on a vu cette année partout sur la croisette. Alors, impossible, bien sûr, de faire autrement, mais est-ce que ça n'a pas un peu gâché la fête ? Peter de Bruges.
C'est bizarre pour nous, les Américains, mais en même temps, je suis content qu'il est vraiment sérieux de notre sécurité. Maintenant, en France, c'est vraiment un moment de haute tension avec tous les actes de terrorisme et tout ça. C'est mieux
d'être... Et puis l'attentat de Manchester qui a eu lieu le soir, le jour de la célébration du 70e anniversaire.
Ça renforce le fait que c'est essentiel de protéger les critiques, même les critiques, mais les stars, tout ça, le talent ici au festival. Mais c'est un peu dérangeant, mais en même temps, c'est essentiel.
Alors, on va parler peut-être, commencer par le niveau général cette année, après une année 2016 dont tout le monde s'accordait à dire qu'elle était exceptionnelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce millésime 2016? Ariel Schweitzer.
Ce qui a vraiment gâché la fête, pour moi, c'est pas la sécurité, c'est le niveau notamment de la compétition. Si l'année dernière, il y a eu la révélation de plusieurs nouveaux noms, Maran Ade, Kleber Mendoza Filho, la compétition aujourd'hui, cette année manquait terriblement de révélations et on avait le sentiment que les grands noms sont revenus à Cannes avec des films moyens, voire médiocres. Donc faire la queue pendant une heure pour entrer dans la grande salle lumière et voir un navet en compétition, pour moi c'est ça qui a gâché la fête.
Voilà. Tahar Chikaoui, je vous vois rire et opiner.
Non, quand on arrive à Cannes par avion, tu sais, on a l'impression qu'on est encore à l'aéroport parce que c'est le même dispositif. Et quand on voit les films, on se dit bon, ça va décoller demain, après-demain. Ça décolle pas.
Et cette donc année, ça n'a jamais décollé.
C'est ça s'installe
vous,
pas.
Vous êtes en train de nous dire.
On s'installe pas et oui, médiocre. Je crois que c'est un adjectif qui me convient bien.
On a l'impression un peu que c'est un système qui est arrivé à un épuisement. C'est-à-dire que cette idée que les grands cinéastes font les grands films, ça a fait ses preuves peut-être dans quelques éditions dans le passé, mais aujourd'hui, ça marche plus.
Peter de Bruges.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout, dans le sens que j'ai trouvé des films assez forts dans la sélection, et même le premier film de compétition, le film de Zagantsev, le russe, était très, très fort, je crois. Mais en même temps, au fin de cette semaine, cette quinzaine, c'est vraiment... il n'y avait pas assez de ces grands films, mais en même temps, il y a quelques-uns là-dedans qui justifient la sélection officielle, la compétition, tout ça. Mais je vois ici, à ce moment, nous avons des questions est-ce qu'il y a un qui est assez fort pour gagner un Palme d'Or? Et c'est plus ça, il n'y a pas une seule qui surmonte les autres.
Il n'y a pas un film qui s'impose. Et effectivement, le film d'Andrei Zviagintsev, le film russe Faute d'amour, Loveless, c'est vraiment le film qui conquiert tous les critiques étrangers d'après le palmarès du magazine Screen.
Pour ma part, la Palme d'Or, c'est Faute d'amour de Zviagintsev.
Loveless. It'll be Loveless, the Russian film by Andrei Zviagintsev.
My Palme d'Or would be a Good Time.
Là, je suis départagée entre le dernier film de Fatih Akin qu'on vient de voir et Zviagintsev, le russe, Faute d'amour, Loveless.
Ma Palme d'Or à moi, c'est Faute d'amour de Zviagintsev, le russe. Un couple qui divorce et un enfant au milieu, qui décide de prendre la fuite par rapport à cette réalité accablante. Et du coup, ça devient un thriller de disparition d'enfants poignant.
Il y a une vraie humanité, il y a le désespoir de l'enfant qui est le lien entre les deux. C'est montré avec maestria réellement. C'est vraiment très très bien ce film.
Ma palme d'or du cœur, c'est Okja de Bong Joon-ho. Mais il ne l'aura jamais parce que c'est un film Netflix et que les gens ne pourront pas le voir. Et c'est vrai que ça sera frustrant pour eux parce que c'est un film à voir sur grand écran.
La palme d'or, sans aucun doute, ce serait pour moi le film de Robin Campillo, 120 battements par minute. Parce qu'il n'y a pas eu aussi grande émotion pour moi pendant le festival et même dans les dernières années du festival.
Alors ça se départage quand même, hein, bien clairement entre Faute d'amour du russe Zviagintsev et puis 120 battements par minute de Robin Campillo. Ça, c'est vraiment le film qui a fait pleurer, j'ai l'impression, tous les festivaliers. 2h20 pour raconter les années ACT UP à Paris. C'est une grande fresque intime et politique. En même temps, c'est un peu votre palme d'or, je crois, Ariel Schweitzer.
Oui, parce que c'est un film qui est rassembleur. Il a à la fois les qualités d'un film engagé et militant, mais aussi des qualités esthétiques non négligeables. C'est-à-dire, j'ai apprécié la manière dont Robin Campillo intègre un récit romanesque et des personnages extrêmement complexes dans un cadre historique extrêmement précis. Il y a un effet extrêmement intéressant dans ce festival, d'un retour nostalgique parfois sur les années de militantisme. On les voit par exemple dans le film Redoutable de Hazanavicius.
Mais là, sous une forme plutôt comique, hein, sous une forme de comédie.
Voilà, sous une forme caricaturale. Mais voilà, le film 120 battements de cœur n'est absolument pas ni caricatural ni nostalgique. Il fait revivre l'esprit militant, mais dans un cadre romanesque. Ça fonctionne à merveille. Peut-être le film est un peu trop long. 2h20, c'est un peu trop long, mais c'est quand même un film qui arrive à rassembler, et pour de bonnes raisons.
Vous, Peter de Bruges, c'est aussi un film qui vous a beaucoup plu.
Je trouve que les Français adorent ce film. C'est vraiment eux qui ont embrassé ce film. Mais en même temps, les Américains sont un peu plus mixtes. Je trouve que ça a commencé très très fort. Mais ça a tombé un peu trop dans les débats de la groupe et tout ça. Ça devient un film très familier avec quelqu'un qui a le sida, qui meurt lentement. Et c'est très poignant. Au fin, quand le groupe rassemble autour de lui. Et pour moi, c'était plus un voyage intellectuel qu'émotionnel.
Que charnel et physique.
Mais en même temps, je trouve que la compétition en général, c'est hyper. Il y a une froideur, une austérité là-dedans. Et ce film est un des plus humanistes dans la compétition. Et je pense que c'est ça qui connecte les gens au film.
Et Catherine de Médicis demande à Ronsard...
Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer.
Qui vous a donné l'autorisation?
Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation.
Ne regardez pas,
il faut savoir que le risque existe bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre eux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule et densifier les sédas. On va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à...
Voilà, un extrait de 120 battements par minute de Robin Campillo. On ne l'a pas dit, mais c'est aussi la révélation d'un tout jeune acteur d'origine argentine, Nahuel Pérez Biscaya. C'est un film que vous avez aussi beaucoup aimé, Tahar Chikaoui.
Oui, moi je ne serais pas vexé qu'il ait la Palme d'Or. Justement, cette raison-là que Ariel a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre que le festival, à mon avis, a un peu perdu entre ce qui est spectaculaire, ce qui est un peu économique, ce qui est culturel, ce qui est artistique. C'est ça, le Festival de Cannes, c'est une équation
cet
comme
équilibre.
Ça. Un équilibre qui se perd un tout petit peu, qui a tendance à basculer plutôt du côté du marché. Et là, ce serait peut-être une manière pour le festival de se réconcilier avec sa vocation. Mais ma Palme d'Or à moi, enfin, la Palme d'Or de Cannes, si c'était ça, ça ne me vexerait pas. La mienne, ce serait autre chose, évidemment. Moi,
ce serait le film de qui ?
De Kawase, même si...
Naomi Kawase.
Naomi Kawase, même si par rapport à...
Vers la lumière.
Oui, que je trouve...
Deux mots de l'intrigue de Vers la lumière, hein, puisque c'est quand même ça commence par une scène où on voit des traducteurs en fait, mais spécialisés, qui sont occupés à traduire en audio description, c'est-à-dire pour les aveugles, un film réalisé donc par un réalisateur, et une de ces jeunes femmes, très jolies jeunes femmes qui s'occupent de l'audio description, va tomber amoureuse progressivement d'un photographe qui est en train de perdre la vue. Et donc c'est un film aussi beaucoup sur le cinéma, sur ce qu'on exprime par le cinéma et comment on le reçoit aussi.
Je trouve qu'il est actuel, la question est actuelle, et puis évidemment du point de vue à moi en tant que critique, c'est important de chercher les mots pour décrire une image. Je trouve ça effectivement très fort dans le film, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'est comment arriver à partir des sens, de ce qu'une image peut provoquer en nous comme sensation, trouver une manière de traduire ça. Je trouve ça vraiment... C'est un photographe qui, donc lui, il a le sens de l'image, quoi, mais
qu'il est en train de perdre.
Voilà, donc il y a quelque chose qui se perd et une tentative de récupérer ça par des mots. Je trouve que c'est très 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 actuel, ça me parle moi aujourd'hui, quand je pense au cinéma, ouais, c'est ce qui m'arrive un peu.
Peter de Bruges, vous parliez tout à l'heure d'un festival avec des films glacés, voire glaçants. Alors, je pense qu'il faut absolument parler de Faute d'amour, le film du russe Diaghilev. Et on l'entendait aussi tout à l'heure, hein, beaucoup de festivaliers disent que c'est leur palme d'or. Pour revenir rapidement sur l'histoire, donc, c'est l'histoire d'un couple, on l'a brièvement entendu, qui se sépare. Vont-ils se déchirer pour la garde de leur fils ? Et bien, en fait, pas du tout. Aucun des deux neveux du fils, Alyosha, qui a 12 ans. La fugue d'Alyosha va bouleverser leur vie. Donc c'est la description en fait d'un couple monstrueux, et à travers ce couple monstrueux, la description d'un pays qui ne l'est pas moins. Peter de Bruges, c'est un film que vous avez aimé ?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film, et il y a un autre dans la compétition aussi qui est russe, et ils sont
une femme douce, hein, de Sergei Loznitsa.
Une femme douce.
Ils sont vraiment en miroir, hein, tous les deux. Oui, c'est deux portraits glaçants de la Russie d'aujourd'hui.
Oui, et ils sont les deux des allégories, mais en même temps, j'ai trouvé que le film Sans amour, c'est ça en français ?
Faute d'amour.
Que ce film, ça fonctionne comme une histoire aussi, presque comme une histoire d'un film des frères Dardenne ou quelque chose comme ça. C'est très...
intimiste.
Exactement. Et on suit les deux parents pendant ses recherches pour son fils perdu. Et en même temps, on a des petits vues, des perspectives vers les troubles de la Russie maintenant. Par contre, l'autre film, Une femme douce, c'est plus une façon de parler des gros problèmes, et c'est plus didactique, je crois.
Alors, Une femme douce, évidemment, le dispositif est très très différent. Je crois que vous voulez nous en parler, Ariel Schweizer. C'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de son mari prisonnier. Elle ne sait pas en fait s'il a été libéré, s'il est mort, s'il a été transféré de prison. Et donc on suit son voyage, son périple, qui devient peu à peu, on peut le dire, un véritable calvaire. C'est un film qui a vraiment cliver la critique. Je crois que vous allez me le confirmer, Peter de Bruges, mais autant du côté de la critique française qu'internationale, c'est plutôt un film qui a été rejeté.
C'est très difficile de voir ce film, mais en même temps, on comprend que c'est hyper important que ça existe. Mais ça...
C'est très répétitif.
Oui, et à la fin, il y a un dream sequence, un rêve de 30 minutes qui donne tous ces indices de politique de réalisateur, mais en même temps, c'est un peu trop, ça demande trop, je crois, des spectateurs.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu gênant? Je vous parle à vous, Ariel, sachant que vous avez beaucoup aimé le film, que ce soit quand même le film d'un réalisateur ukrainien sur la Russie. Déjà, ça induit un biais.
Oui, mais Loznitsa connaît très bien la Russie parce qu'il a vécu plus que 20 ans de sa vie en Russie. Il a une vision critique de la Russie, mais qu'on trouve dans un grand nombre de films russes aujourd'hui. Et moi, le film m'a touché et m'a convaincu.
Enfin, c'est un peu comme si le voisin en guerre faisait un portrait à charge du pays d'en face, quand même.
C'est vrai, mais je pense...
Ça a été tourné en Lituanie, hein, je précise.
Mais je pense que le film a aussi une portée universelle. D'abord, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est sa manière de changer systématiquement de registre. Parce que ça commence comme un film réaliste, ça devient de plus en plus grotesque et ça continue en fait comme une fable surréaliste. Et quand on parle de références littéraires, on a parlé donc d'une femme douce de Dostoïevski, mais pour moi c'est un film qui se rapproche beaucoup plus de l'univers de Kafka. Et on pense beaucoup à la métamorphose de Kafka est citée dans le film, mais aussi le procès de Kafka. Et c'est pour ça que le film, pour moi, n'est pas seulement une vision critique de la Russie, mais le film a aussi une vision quasi universelle. C'est l'homme, l'être humain qui est écrasé par des puissances bureaucratiques, étatiques. C'est vrai que dans plusieurs œuvres précédentes de Loznitsa, on trouve effectivement cette vision à charge contre la Russie.
Au bazooka.
Et c'est vrai que ça existe également dans ces films-là, mais pour moi, le film a aussi une portée universelle.
Alors, dans un tout autre registre, hein, et pour terminer rapidement la première partie de Tous les cinémas du monde, je voudrais qu'on parle d'un film qui, me semble-t-il, a été vraiment apprécié et en même temps oublié tout aussi vite, c'est Okja. Du sud-coréen Bong Joon-ho. On en a beaucoup parlé d'Okja parce que c'est un film produit par Netflix. L'histoire d'une petite coréenne et de son cochon transgénique. Alors je dis cochon, mais en fait c'est un cochon hippopotame, un pigopotamus, oui. Disait la presse anglo-saxonne. La multinationale qui a créé le cochon veut le récupérer. Voilà, c'est un film qui commence comme Mon voisin Totoro, qui se termine comme Le sang des bêtes de Franju. On écoute la bande-annonce.
I took nature and science, and I synthesized.
Voix de Tilda Swinton, à qui joue la patronne de la multinationale qui a produit Okja. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Peter de Bruges? Je crois que vous avez été déçu un peu.
Oui, j'ai pas trop aimé le film, qui était très familier. C'est dans le genre des histoires d'un enfant et son bête magique, comme E.T. l'extraterrestre. Il y a toujours des films comme ça chez nous aux États-Unis. Mais en même temps, il y a un politique, un polémique derrière qui parle de ce qu'on consomme, de les expériments génétiques.
Il y a
tout
un
ça.
Message écolo très clair dans le film.
Oui, un peu trop fort, je crois.
Trop lourd pour vous?
Pas lourd, mais évident. C'est juste, et c'est rigged dans le sens que c'est construit où le point de vue de Bong Joon-ho, c'est dans le fabrique du film. Par exemple, le bête qu'ils ont construit, c'est on veut tous un animal comme ça pour agrandir chez nous comme le petit fille. Alors c'est pas exactement ils ont décidé de le faire pas juste, je crois, pour le voyage qu'ils font.
Votar Chikawi, Ariel Schweizer, vous avez vu Okja?
Moi, si c'était pas Netflix et si j'étais programmateur, peut-être que c'est ce film là que je mettrais en ouverture. Et je mettrai le Desplechin en compétition.
Tous les cinémas du monde, c'est le moment de l'entracte. On se quitte trois petites minutes pour vous retrouver, nos trois critiques de cinéma, Peter de Bruges, Ariel Schweizer et Tahar Chikawi.
Les cinémas du monde, Sophie Torlotin Elisabeth Le Quéret. La 70e édition du Festival de Cannes avec RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde sur le pavillon de RFI au-dessus de la plage du Majestic, à quelques centaines de mètres du tapis rouge le plus photographié du monde. Bienvenue avec nos trois invités, Peter de Bruges, Ariel Schweitzer, Tahar Chikawi. Alors tout à l'heure, on parlait un peu des thématiques de ce 70e Festival de Cannes, une petite ambiance d'apocalypse avec les films de Michael Haneke, Happy End et Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Des films politiques aussi, on en parlait, Robin Campillo, 120 battements par minute. On aura l'occasion aussi tout à l'heure de parler d'autres films qui étaient dans les sections parallèles. Mais moi, je me demandais finalement, cet avant-dernier jour du festival, si le slogan de l'édition 2017, c'était pas un peu « Mort aux Bourges ». Parce que dans le film de Michael Haneke, Happy End, c'est quand même le portrait glacé d'une famille de grands bourgeois du nord de la France, Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert, qui vont se révéler au fil du film de plus en plus monstrueux. Yorgos Lanthimos aussi, c'est l'histoire d'un cardiologue qui va se retrouver confronté à un dilemme terrible, doit-il ou pas sacrifier l'un des membres de sa famille. Et puis The Square, du Suédois Ruben Östlund, un film que vous avez beaucoup aimé, Peter de Bruges. Comment raconter ce film ? C'est un peu compliqué. C'est le directeur d'un grand musée,
oui,
qui est un homme bien sous tout rapport et qui, au fil du film, ça va se révéler de plus en plus, peut-être pas monstrueux, mais de plus en plus,
oui,
détestable. Enfin, c'est un peu...
C'est un critique social avec plusieurs sketchs là-dedans. Il y a des critiques vers le film que c'est pas assez narratif. Il y a plus une séquence de petites scènes où il y a des dilemmes sociaux ou moraux entre des personnages.
Mais c'est un maître du plan séquence, hein, Ruben,
oui,
Östlund.
Östlund, il est vraiment fort dans ça. Mais le fait que le personnage principal travaille dans un musée, il est en train de mettre une exposition vers un square, un cadre qui est, dans un sens, tout le film parle un peu conceptuellement de comment l'art peut commenter vers ou communiquer avec des choses de nos vies et comment on nous engageons avec tout ça. Alors, c'est vraiment une chance pour des spectateurs de penser aux choses un peu qui sont pas confortables, qui sont et des sujets comme des classes sociales, des stéréotypes, tout ça. Et il y a beaucoup des thèmes qui sont mis, peut-être trop des thèmes qui sont mis dans ce film, mais pour moi c'était le plus riche pour des opportunités de lancer des pensées profondes.
Et le film de Michael Haneke, Happy End, c'était une déception pour vous, Ariel Schweitzer, Peter de Bruges?
D'abord, je voudrais dire par rapport à ça que la mort de la bourgeoisie, ou abat la bourgeoisie, ce slogan va de pair dans certains de ces films avec la punition du spectateur. C'est-à-dire que c'est des films extrêmement froids avec un regard clinique. Alors, Square, effectivement, il est un peu en part parce qu'au moins, il y a beaucoup d'humour dans le film. J'ai pas mal ri et je pense que c'est ce qui fait que le film échappe un peu à cette nouvelle mode qui n'est pas vraiment nouvelle. Ça fait plusieurs années qu'on essaye d'impressionner la critique internationale avec des films à grand sujet, donner des leçons pour de nombreux d'entre eux. Et on a le sentiment, surtout dans le cas du Michael Haneke, qui fait une forme de compilation de son propre œuvre, mais sans aucune perspective nouvelle. Comme si c'était un code à répéter pour pouvoir aller dans les grands festivals.
Un algorithme presque,
voilà,
hein, pourrait-on dire.
Et c'est encore pire dans les cas du cinéaste grec
Yorgos
Lanthimos. Pour moi, c'est une fabrication du Festival de Cannes. J'ai jamais apprécié ce cinéaste. Et donc, pratiquement toute l'œuvre est une forme de coquille vide, avec très grands effets de mise en scène et l'essence de la provocation, mais qui tourne finalement à vide. Et on en a un peu marre de ce cinéma pompeux qui est comme une forme de marque de fabrique de la compétition. Voilà, il faut que ça change pour moi.
Peter de Bruges.
C'est la génération Haneke. ici, cette année, il revient à ses sujets, à son style, après Amour, qui était vraiment une avance dans une côté humaniste ou quelque chose. Mais avec Faute d'amour, le mise à mort d'un cerf sacré, et avec The Square, ils sont des films qui sont faits dans le style de Haneke. Ils sont hanekiens, mais ils dépassent ces trois réalisateurs-là. Je crois qu'ils dépassent Haneke cette année avec des films plus forts en utilisant ces codes. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore Haneke, même si cette film ne m'a pas impressionné au même niveau. Mais maintenant, on voit la génération qui suit et qui continue cette tradition. J'ai préféré peut-être les trois films-là dans la compétition. J'ai beaucoup aimé le film de Lanthimos, que je trouve comme une continuation, un renouvellement de la tragédie grecque ancienne.
Et puis il faut dire que Yorgos Lanthimos, pour ce film Mise à mort du cerf sacré, travaille avec quand même des stars, Colin Farrell et Nicole Kidman. Donc peut-être Nicole Kidman, qui est aussi dans d'autres films en compétition, peut-être un prix
qui
d'interprétation.
Qui est un peu la reine du festival cette année.
C'est son Funny Games, enfin, cette film. C'est dans un peu cette façon.
Alors on parlait de super auteurs, parce que c'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Alors moi, je voudrais qu'on passe un extrait d'un film dont l'auteur n'est peut-être pas un super auteur, mais en tout cas, c'est sûr un super auteur. Jean-Luc Godard, c'est Le Redoutable de Michel Hazanavicius.
Mes vrais acteurs, moi, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait.
La voix de Louis Garrel, qui incarne Jean-Luc Godard dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius. C'est un film qui était très attendu à Cannes, qui n'a finalement... En fait, on pensait qu'il allait être très sifflé ou très applaudi. Et puis finalement, un peu rien. Rien ne s'est passé. C'est un film qui revient un peu sur la crise que Godard traverse en 1967-68. Tarchikawi, vous l'avez vu?
Oui.
Ça vous a déçu?
Non, j'ai trouvé ça sans intérêt. Je pense qu'il est passé à côté de quelque chose, quoi, parce qu'il a choisi quand même un moment très important dans l'itinéraire de Godard, un moment où devant c'est un événement important historique, il se dit ce que j'ai fait jusqu'ici, je laisse tomber, je fais autre chose. Donc il a accepté volontairement de se perdre dans l'événement en se coltinant avec.
Mais là, on parle de Godard. Voilà,
oui. Et pour faire quoi, en fait, au lieu de s'interroger là-dessus, eh ben, il a pris des trucs un peu anecdotiques qui sont ridicules, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça sans intérêt, franchement.
Le problème avec ce film, c'est que Hazanavicius, c'est le cinéaste du pastiche. Ouais. C'est un cinéaste postmoderne, et il y a une sorte de confrontation impossible dans ce film entre la postmodernité et la modernité qui représente Godard.
Alors, moi, non, mais c'est surtout que dans son film, Godard devient OSS 117.
Exactement. Alors, je sauve quelques éléments dans le film, notamment les relations du couple sont parfois assez touchants.
Le couple, c'est Godard, Anne Jasinski, puisque le film, je le dis rapidement, mais il est inspiré des deux romans autobiographiques de Anne Jasinski, qui est jouée par Stacy Martin.
Et qui a une présence extraordinaire, c'est une vraie révélation d'actrice.
Possible prix d'interprétation.
Donc, le film est assez touchant dans l'observation des relations du couple, mais il est complètement caricatural dans sa vision politique. Et on a vraiment l'impression que Hazanavicius n'est pas le metteur en scène capable d'aborder une période aussi complexe d'un grand auteur comme Godard. Il n'est pas à la hauteur du sujet.
Voilà. Il le fait en pastichant aussi des scènes des grands films de Godard.
Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Haneke, moi je trouve c'est quelque chose qui traverse beaucoup de films. Il y a comme un... Excusez-moi de dire ça comme ça de façon un peu sommaire, comme une absence d'altérité, c'est-à-dire qu'on dénonce, on fait des autopsies cliniques, froides, etc. Comme si il n'y avait plus d'adversaire, ou parce que le méchant, il n'est intéressant qu'en la mesure où il a en face de lui un adversaire, et du coup, il devient humain. Et ça, ça fait que beaucoup de cinéastes, ils sont ramenés à eux-mêmes, quoi. Un film comme Le Redoutable, enfin, on voit pas le sujet, on ne voit que Haneke dans le film. Tout le monde est coupable sauf lui. Et ça, c'est vraiment assez fréquent, quoi, assez courant. Il n'y a pas de dialectique, on va dire ça comme ça, dans un langage.
Il n'y a pas de contre-champ.
Il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de vie. C'est ce que on disait tout à l'heure par rapport à ce que l'ennemi devient un peu abstrait, quoi. Donc voilà, c'est mort. Et puis voilà, on dissèque le cadavre. Et ça, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je trouve ça dépassé, quoi, complètement.
Frissonne, hein. C'est le générique de Twin Peaks un petit peu revu et corrigé, puisqu'on parle de la saison 3 qui commence à être diffusée aux États-Unis sur Showtime, en France sur Canal+, et la projection exceptionnelle des deux premiers épisodes de cette saison 3, bien c'était jeudi soir au Palais des Festivals en présence de David Lynch. David Lynch n'était pas venu à Cannes depuis 15 ans. Et il a arrêté, il avait dit il y a à peu près 10 ans qu'il arrêtait le cinéma après l'échec de Inland Empire. Donc là, il reprend sa série culte 25 ans après le tout premier épisode. Et on a vu à Cannes donc une salle debout, ovation pour David Lynch. Et je ne sais pas si l'un de vous trois a pu voir Twin Peaks. Non, c'était vraiment événementiel, peut-être plus intéressant même que des films en compétition, où on retrouve comme si David Lynch nous donnait des pièces d'un puzzle, les quatre coins, et il faudra effectivement pas moins de 18 épisodes pour pouvoir remplir tout le puzzle.
Mais pourquoi est-ce qu'on accepte qu'il y a deux séries télé par des gens qui ont gagné des parts?
Oui, parce que Jane Campion montrait effectivement les deux premiers épisodes de la saison 2 de Top of the Lake.
Exactement. Et au même temps que c'est un scandale que Netflix était représenté. Pour moi, c'est un paradoxe que je ne suis pas. Je suis ouvert à que les deux peuvent être ici, mais je ne sais pas pourquoi les séries télé sont célébrées au même temps que les films de Netflix sont sifflés. Même le film de Meyerowitz Stories, de Baumbach, qui n'était pas produit par Netflix, c'est juste qu'ils ont acheté le film.
Parce que c'est les deux films Netflix en compétition, donc The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach et Okja de Bong Joon-ho sont donc en compétition et potentiellement
Thierry Frémaux répondrait la Palme d'Or. C'est la Palme d'Or.
Oui. C'est la question de la Palme d'Or et les deux séries effectivement sont hors compétition. Mais du point de vue d'outre-Atlantique, les débats français sur Netflix, le fait de ne pas pouvoir voir les films en salle, on n'a pas la même appréciation des choses.
C'est juste que Netflix a le droit d'acheter tous les films si les droits sont disponibles de la compétition. Alors c'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils ont acheté Meyerowitz Stories 3 semaines avant Cannes, que c'est un scandale, mais c'est le marché maintenant, et je préfère de voir tous ces films en salle. Mais au même temps, c'est difficile pour moi de justifier de voir 6 ou 8 heures d'un série télé au milieu d'un festival de films.
Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les sections parallèles avec vous trois. Les sections parallèles du Festival de Cannes, parce que c'est vrai qu'ici, tous les yeux sont braqués sur les 19 cinéastes de la compétition. Il y a des dizaines de films qui passent à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique, à l'acide, un certain regard, bien sûr. Je crois que vous, un des films qui vous a le plus marqué, Ariel Schweitzer, se trouvait à la semaine de la critique cette année.
Oui, c'est un film brésilien de Felipe Barbosa, dont on a pu découvrir il y a un an les premiers longs métrages, Casa Grande. Donc il revient avec un deuxième long métrage qui est pour moi le choc de ce festival de Cannes, le film le plus surprenant et le plus audacieux. Et on se pose la question comment un tel film n'a pas été intégré en compétition parce qu'il a le niveau de la compétition.
Alors l'histoire en deux mots, c'est un film entre fiction et documentaire. C'est un cinéaste qui part sur les traces de Gabriel, donc son ami d'enfance, un grand voyageur qui a trouvé la mort en Tanzanie. Et donc, c'est un acteur qui joue le rôle de Gabriel. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce film?
C'est un acteur qui joue le rôle de Gabriel, mais tous les autres interlocuteurs, c'est-à-dire les gens qui l'ont accompagné durant les voyages, sont les vraies personnes. Et en fait, déjà, le dispositif du film est absolument étonnant parce qu'ils refont les voyages dans 7 ou 8 pays africains. Ils montent, il escalade le Kilimandjaro. Ils font exactement le même voyage qu'a fait le héros du film dans la réalité. Et le film tisse des liens extrêmement subtils entre fiction et documentaire, entre le personnage principal incarnées par un acteur et ses interlocuteurs qui sont les vraies personnes qu'il a croisées tout au long de son chemin. Mais c'est un grand film à la fois philosophique et politique, et on peut voir dans les protagonistes de ce film comme une forme d'incarnation métaphorique du Brésil, c'est-à-dire un pays jadis du tiers-monde, aujourd'hui une nouvelle puissance mondiale, dont la chute est provoquée par un péché d'orgueil. Donc c'est un film qui a des résonances à la fois existentielles, philosophique, parce que c'est aussi un film sur la question des limites, et les protagonistes sont marqués par une sorte de pulsion suicidaire tout au long du film, et il va effectivement mourir à la fin du film, mais aussi on peut le voir comme un film politique sur les rapports géopolitiques entre les premières et les troisième mondes d'aujourd'hui.
Allez, un peu de musique. On se retrouve ensuite avec nos trois invités, Peter de Bruges, Ariel Schweitzer, Tahar Chikaoui. Un peu de musique qui nous replonge dans le Paris des années 90. Une musique qui fait battre le cœur. C'est la BO de 120 battements par minute de Robin Campillo, Bronski Beach. Invités, Tahar Chikaoui, Ariel Schweitzer, Peter de Bruges, pour revenir sur les temps forts et un peu cette année plutôt les temps faibles de ce 70e Festival de Cannes. Alors on parlait des films, d'un excellent film que vous avez découvert à la Semaine de la Critique, Ariel Schweitzer, Gabriel et la Montagne. Vous, Tahar Chikaoui, je crois qu'il y a un film français qui vous a beaucoup marqué dans la section Un certain regard, c'est L'Atelier de Laurent Conté.
Oui, je trouve ce film effectivement... par rapport à tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, extrêmement intéressant, précisément parce qu'il se coltine avec quelque chose, cinématographiquement, je veux dire, avec quelque chose de très actuel, de très vivant, en interrogeant aussi le cinéma.
On peut revenir rapidement sur l'histoire. Donc, c'est une romancière, Marina Foïs, qui anime un atelier d'écriture avec des jeunes de La Ciotat. Et dans son groupe d'écriture, et c'est ça la dimension politique du film, dans son groupe d'écriture, elle va tomber sur Antoine, qui est joué par un débutant extraordinaire, on peut le dire, Mathieu Lucci, qui, lui, est un très beau garçon, très déséquilibré, et surtout très attiré par les idées d'extrême droite et les armes à feu.
Voilà, par exemple, un personnage, entre guillemets, négatif. Mais
qui un vrai est... personnage, un beau
mais,
personnage.
Mais qui est un vrai personnage, c'est ça. Moi, le cinéma, pour moi, c'est ça. C'est quand on se coltine avec ce qui est négatif ou monstrueux, on essaie de détecter ce qu'il y a dedans, d'humain, sinon ça n'a aucun sens, quoi. Et là, je pense que vraiment c'est réussi, c'est tout à fait réussi, c'est très très loin du discours politique ambiant, etc. Et il y a une analyse mais cinématographique, difficile à traduire d'ailleurs, en termes idéologiques ou de phénomènes qui sont tout à fait actuels aujourd'hui. autre. Et puis, d'une manière aussi, avec un regard cinématographique, ou même les cloisonnements habituels de la fiction, du documentaire, enfin, tout ça s'estompe un tout petit peu à la faveur d'une investigation ouverte, où effectivement, comme tu disais tout à l'heure, enfin, le contre-champ existe, quoi. En même temps, dans certains regards où il y a des films, à mon avis, plus intéressants, du côté à la fois des jeunes. Moi, j'ai eu de très bonnes surprises. D'abord, je tiens absolument à parler de ce premier film qui est intitulé Tess Nota.
Un premier film russe.
Russe.
En lice pour la caméra d'or.
Mais là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la Russie, parce que c'est on va dire, le portrait d'une fille dans une famille juive en Tchétchénie. Une situation extrêmement complexe, filmée de
Azerbaïdjan, je pense.
C'est en Azerbaïdjan. Oui, ça se passe en Azerbaïdjan. Et c'est un film formidable. Moi, c'est mon coup de cœur, ce film. Vraiment.
Tahar Chikaoui, oui. Tess Nota, c'est votre coup de cœur du festival?
Oui, alors, mais j'aimerais dire aussi un mot du film de Karim Mamou. Oui, pour moi, oui, c'est ça. C'est un jeune, hein. Sans tomber dans le jeunisme, je trouve qu'il y a effectivement, de la part d'un certain nombre de cinéastes qui arrivent, quelque chose de nouveau. Là, quand on prend par exemple un film comme celui de Karim Moussaoui,
En attendant les hirondelles, qui est donc une sorte de portrait générique de la société algérienne actuelle.
Quand on connaît le cinéma algérien, ou le cinéma du Maghreb, ou le cinéma de ces pays-là, on se rend compte qu'il fait preuve d'une audace extraordinaire du point de vue de la mise en scène, du point de vue du récit, du point de vue du regard. C'est très très étonnant, où les personnages se passent le relais.
C'est un peu marabout bout de ficelle. On passe d'abord sur l'histoire d'un personnage, et puis au bout de, je sais pas, mettons une vingtaine de minutes, on passe à un autre qui
un autre
secondaire.
Un autre qui était très secondaire, quoi. Qui était pas à la manière de Truffaut ou de Balzac. Non, c'est quelqu'un qui est
qui passe dans le champ et on le suit.
On a entendu son nom au début, mais vraiment, etc. Et ensuite, c'est lui qui prend le relais. Parce que c'est une autre génération, parce que c'est un autre sujet, parce que c'est un autre contexte. C'est l'occasion pour le cinéaste, en fait, de brosser, de déplier la situation de l'Algérie pour essayer de l'envisager de façon à la fois exhaustive, globale, mais pas du tout emphatique ou héroïque, un peu comme on le faisait à l'époque. Et je trouve ça culotté. Et réellement intéressant, ça c'est un film d'avenir, quoi.
Et on n'a pas parlé non plus du film de votre compatriote, une jeune cinéaste tunisienne, Kauter
Benania. Encore une autre jeune cinéaste qui a été remarquée par deux films, Le Chalat de Tunis, qui est une espèce de documentaire de docu-fiction inspiré d'un fait réel, et aussi de Zainab Nempa, la neige, qui parle aussi d'une petite fille qui ne voulait pas aller au Canada.
Et là, film s'appelle La Belle et la Meute, et
c'est un sujet post-révolutionnaire, on va dire. C'est le premier film tunisien qui parle de la situation après la révolution, quoi.
Parce que
c'est inspiré aussi d'un fait réel. C'est une jeune fille qui a été violée par des agents de police alors qu'elle était avec son petit copain. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre en Tunisie.
Elle lutte pour pouvoir porter plainte, et le film est construit en plan séquence où on la voit aller d'hôpital en commissariat et essayant de faire valoir ses droits.
Oui, voilà. Et le film, elle a conçu comme ça, avec cette forme-là de plan séquence avec des chiffres 1, 2, 3 comme une espèce de réquisitoire, comme ça. Peut-être un peu trop formellement appuyé, mais qui effectivement nous donne à regarder la société tunisienne aujourd'hui après la révolution de façon tout à fait nouvelle, y compris du point de vue du cinématographie.
Vous, Peter de Bruges, est-ce qu'il y a un film qui ressort pour vous dans les sections parallèles, un film que vous avez
Oui, aimé? Il y avait un film américain dans le quinzaine qui s'appelle The Florida Project par Sean Baker, qui l'a tourné Tangerine.
Qui était un film formidable, hein, sur la dérive le soir de Noël deux transsexuels dans Los Angeles.
Avec une,
c'est dans la même veine,
puissance, une énergie similaire. C'est différent que tous les films que j'ai jamais vus, mais en même temps, c'est son sensibilité où il trouve des non-professionnels. Ici, c'est des jeunes qui habitent dans un petit motel floridien dans l'ombre de Disney World. Alors, ils sont pauvres, sa mère danse dans un club exotique, elle se prostitue quand elle a besoin d'argent. Mais en même temps, ça concentre sur les enfants qui sont un peu perdus, un peu sauvages, et ça les suit, et c'est juste plein d'énergie. C'est comme un feu d'artifice, un peu comme American Honey l'année dernière, et je suis sûr que que si c'était mis dans la compétition, ça bouleverse le dialogue un peu. Ça donne un peu de drame et d'énergie qui manque un peu dans la sélection officielle.
Rapidement, on ne vous a pas posé la question, mais qu'est-ce que vous avez pensé cette année des films américains qui étaient présentés à Cannes ? Parce qu'il y en avait énormément, je crois qu'il y en avait 4 dans la seule compétition, ce qui est énorme.
En bref, c'est des sélections bizarres, mais je pense que les studios sont... ils ont plus à perdre à Cannes qu'à gagner.
Ils ne donnent pas leurs films, c'est ça?
Oui, et c'est les petits indépendants qui voient... C'est Netflix, c'est des distributeurs indépendants...
Qui tirent leur épingle du jeu.
C'est ça. Et quelque chose comme Good Time de les frères Safdie, c'est comme des films qui sortent dans des salles américaines indépendantes. C'est pas si spécial. C'est pas le niveau de compétition, je crois.
Merci beaucoup, merci à tous les trois, Peter de Bruges, Ariel Schweitzer, Tar Chikawi. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous réécouter sur Internet, voire même nous voir sur la page Facebook de l'émission. Rendez-vous demain soir aussi avec vous, Sophie Torlotin, avec Isabelle Chenu et moi-même pour une heure d'émission en direct pendant la remise des prix. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard et à la technique Philippe Nadel.
Rendez-vous la semaine prochaine à Paris. On rentre à Paris, pas tout à fait quand même, puisqu'on parlera encore d'un film cannois, Le Vénérable W, avec son auteur Barbet Schroeder.